fraise.
Façon Thérèse.
À la française.
Mmh, chaud comme la braise.
Chez nous, le bœuf, il y en a pour toutes les bouches. Oui.
France Inter, il est 11h. Les dernières informations avec Timo Rosturk.
Le choléra à Mayotte, contamination inquiétante dans le département d'outre-mer français. Trois premiers cas autochtones confirmés par l'Agence régionale de santé. Jusqu'ici, les cas de choléra détectés à Mayotte étaient des cas importés chez des migrants des Comores, 10 cas depuis la mi-mars. La traque aux traîtres se poursuit en Ukraine. Les services de sécurité ukrainiens ont arrêté deux personnes suspectées de s'être fait passer pour des mécaniciens, pour repérer des positions militaires et les transmettre à la Russie en vue de bombardements près de Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays. L'Ukraine, où le parquet annonce aujourd'hui le placement en détention provisoire du ministre de l'Agriculture, accusé de s'être approprié des terrains appartenant à l'État. C'était avant qu'il rejoigne le gouvernement. Rencontre entre le président chinois Xi Jinping et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, le chef de la diplomatie. Ce matin, en Chine, Pékin avertit que les multiples pressions des États-Unis pourraient entraîner une détérioration des relations bilatérales. Une allusion notamment à l'ultimatum du Congrès américain à l'application chinoise TikTok, qui doit vendre sa branche américaine d'ici un an sous peine d'être interdite aux États-Unis. Un civil israélien tué dans la nuit près de la frontière libanaise par des missiles tirés par le Hezbollah, la milice chiite proche de l'Iran, d'après l'armée israélienne. Occupation et blocus à Sciences Po Paris, l'école parisienne investie par des étudiants pro-palestiniens qui ont dormi sur place la nuit dernière. Une mobilisation dans la foulée du mouvement d'occupation des campus américains par des étudiants opposés à la guerre à Gaza. Ce matin, le président du CRIF, Jonathan Arfi, dénonce une occupation dangereuse qui fait, je cite, « peser un climat de terreur intellectuelle sur une partie des étudiants juifs ». De son côté, le Parti socialiste réclame aujourd'hui la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Nous ne pouvons pas accepter qu'un gouvernement d'extrême droite, celui de Netanyahou, continue à frapper les civils, les femmes, les enfants, comme les combattants, comme les journalistes, comme les humanitaires, dénonce le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Le gouvernement suspendu à la notation de Moody's et de Fitch. Ce soir, les deux agences de notation américaines émettent leur avis sur la dette de la France, alors que les finances publiques accusent un dérapage à 5,5% du PIB en 2023 en raison de rentrées fiscales moins importantes qu'escomptées et une perspective de croissance abaissée à 1% pour 2024 par le gouvernement. Sans conséquences majeures sur les capacités de financement de l'État, une baisse de la note de la France serait surtout un camouflet politique pour l'exécutif. Nouvel investissement du milliardaire tchèque Daniel Křetínský qui s'empare de 20% de l'aciériste allemand ThyssenKrupp. Il pourrait monter prochainement jusqu'à 50% du capital. Artiste féminine de l'année, album pop de l'année, prix du rayonnement international. Aya Nakamura, sacrée à la cérémonie des flammes à Paris hier soir à 28 ans. La chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde survole la concurrence.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce vendredi, France Inter, en direct du Printemps de Bourges, Crédit Mutuel.
Laurent Goumard.
Vivez pendant 3 heures les temps forts du festival. Un peu de love et de tendresse avec Eddy de Préto.
Finalement, c'est ce qu'il nous reste.
Clara Isé viendra illuminer la scène. Et de nouveaux messages personnels à Françoise Hardy.
Une soirée au Printemps de Bourges Crédit Mutuel.
C'est ce soir sur France Inter de 20h à 23h.
Attention, attention, voici une publicité pour Monsieur Meuble. Donc, si vous aimez des meubles inconfortables, mal faits, standards, eh ben n'écoutez pas. Et oui, parce que chez Monsieur Meuble, les meubles sont confortables et bien faits. Mais surtout, vous bénéficiez de conseils personnalisés pour trouver votre meuble idéal et de solutions de paiement adaptées à votre budget. Monsieur Meuble, et vous êtes bien chez vous.
France Inter, partenaire de Paris 1874, inventez l'impressionnisme au musée d'Orsay. Avec plus de 150 œuvres venues du monde entier, cette exposition porte un regard inédit sur la naissance de l'impressionnisme et nous permet d'entrer dans la fabrique d'un mouvement artistique dont Monet, Renoir, Degas, Morisot, Pissarro ou Cézanne furent les instigateurs. Paris 1874, inventer l'impressionnisme, au musée d'Orsay, jusqu'au 14 juillet, un événement France Inter.
France Inter, il est 11h passé de 5 minutes, l'heure de retrouver la bande originale avec vous, Nagui.
Merci Timour, sûr qu'on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres infos. Pastureau et nos invités Alice Belaïdi et Artus. Comment allez-vous, tous les deux? Alice, déjà, comment ça va?
Mais très très bien.
Mais quelle mine!
Voilà.
Ouais. Ça sent l'été!
Dit-il.
Ça sent.
C'est vrai que.
Il y a une petite concurrence là.
Ouais, ouais. On est en concurrence.
Mais je crois que c'est Alice qui gagne quand même.
Ça sent. Ouais, elle gagne, évidemment qu'elle gagne.
Elle est plus bronzée que Pierre.
Ouais, cool. Parce que Monoeil et compagnie, je suis sûr.
Non, pas du tout.
Là, Nagui, on dirait un blanc.
Il y a du.
Protection au Monoeil.
À l'huile d'olive.
Artus, soyez le bienvenu. Vous êtes là pour la première fois, non pas pour la première fois dans l'émission, mais pour la première fois en tant que réalisateur dans l'émission.
Ouais, c'est émouvant.
C'est chic.
Ouais, j'aime peu.
C'est chic, c'est classe. Et surtout, c'est réussi, on va en parler. Évidemment, de ce film qui est drôle, qui est émouvant, qui est intelligent, qui sortira le 1er mai prochain. Ce petit truc en plus. Mais d'abord, un truc qu'on a en début d'émission, c'est retrouver les morceaux, évidemment. Juste un clin d'œil. Qui chante ça? Avez-vous une idée?
Il est là, Jean-Jacques Goldman.
Non, c'est
Gold.
Ouais.
C'est dans le film.
Pas du tout.
Non. C'est pas grave.
J'adore.
J'étais sûr que c'est dans le film.
Bah non.
Il y a presque. Là, c'est dans un film. C'est sûr.
Ça, c'est sûr.
Il y a forcément une vidéo
dans
YouTube.
Dans Star 80, elle est forcément.
Non, mais c'est pas un film qu'on a vu cette semaine.
C'était dans Star 80.
Ouais, c'est dans Star 80, je pense.
Non, non. Il y a d'autres films qui font ça.
Non. Non, je te jure.
Ah, c'est faux.
Je t'assure qu'il est pas dans le film.
On a pas vu récemment un film où il y avait ça.
Non. Alors, il y a ça aussi.
Tristan,
oui.
Angèle.
Oui.
Wow. Ah, faut dire son prénom?
Ouais.
Faut prendre la main. Oui.
Non, j'aime bien répéter mon prénom régulièrement pendant l'émission.
C'est un duo peut-être, Tristan Angèle.
Ça s'appelle Plus de sang, c'est le premier gold plus près des étoiles. Donc un petit plus. Évidemment.
Quand j'étais petit, je pensais qu'en louchant trop, je pouvais me bloquer les yeux.
Ah si, avec Fleury.
Que les yeux laissent sur mes joues. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose. Tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Mais on est plus tard. Et je comprends pas.
Qui chante ça?
C'est mort ça. Au son, c'est mort.
Ah, même moi, j'aurais pas trouvé.
Oh, bah,
t'es sûr que c'est ça? Je reconnais pas.
Ah oui, là oui. Leïla, Pascal Obispo.
Tout le monde pour moi. Oh, pardon pour Pascal.
Les chansons, il a plu.
Oui, c'est. Merci, Mélodie.
C'est bon, j'ai le.
Oh là, hey.
Oh là, on s'est planté là.
Avec ouais, c'est Pascal.
Pascal, ouais.
Ah, non, j'ai pas demandé.
Mais pour une fois, j'en avais
un. Qui chante ça?
Tristan.
Oui.
Pascal.
Non.
Céline Dion. Garou.
Non. Attends, c'est. Tu peux jouer Alice, hein?
Ouais, ouais,
Tristan,
je sais, là.
C'est pas Natacha Saint-Pierre?
Non. Ah,
Alexis, qui est les Minogue.
Non!
Non, je l'ai!
Mais moi, c'est ah,
Alexis,
non.
Madonna!
Non, c'est français, elle chante en français.
Elle a un accent!
Isabelle Boulay!
Non, elle a un accent!
Allez, plus haut, Tina
Reynard! Non, Tina
Reynard! Tina Reynard!
Comment? Ah ouais!
Franchement, j'aurais pas dû dire!
Allez, plus haut!
Je l'aime, Ah, j'en ai raté un.
On est léger,
j'ai vu
comme il faut.
Ah, bon, ah oui, donc il y a 3 points pour Leïla. Tout se joue là-dessus. Et la victoire. Il y a plus dans le titre, évidemment. Il y a un petit truc en plus.
Ah, non, je l'aime pas en plus. Pardon.
Oh, non,
non, non, non, non, non,
Non, le mec de Louis Attaque, là. Ouais. Merde.
Gaëtan Roussel.
Je suis pas un grand fan de sa voix, mais il est très gentil. Mais non, mais
t'es fou.
Je suis pas un grand fan de sa voix.
Voilà. Pascal Obispo est mort, Gaëtan Roussel, c'est la merde.
Au moins, je savais que c'était lui, tu vois.
Alors, je vais rattraper le truc en disant j'adore Gaëtan Roussel.
J'adore Gaëtan Roussel.
Mais c'est quand même moi qui marque le point.
Oui. La
vie, ça a changé. Le gars nous attaque, franchement.
Tu joues pas.
Ils sont quatre dans le groupe.
Oui, enfin celui qui.
Moi, je l'aimais pas trop alors. Bon.
Ça meurt quand même.
Victoire de Leïla, cadeau pour Daniel Auréa.
France Inter, la bande originale. Avec Nagui et Leïla Kaddour.
Alors, ce petit truc en plus, Artus est né il y a 5 ans. Ça, vous avez commencé à avoir l'idée en créant un personnage sur scène, Sylvain.
Non, en fait, l'idée du film, elle date d'il y a même pas loin de 10 ans.
Okay.
Je me suis dit, si un jour je fais un film, je veux le faire sur ce sujet-là. Et après, il y a le personnage
sujet du handicap mental.
Sur le sujet du handicap, enfin, avec
adultes.
Des acteurs en D'accord. situation de handicap.
Et, après avoir vu le 8e jour ?
Ouais, entre autres, le 8e jour, il a 28 ans. C'est fou. Vieux, parce que ouais, souvent,
mais vous avez pu le voir il y a 10 ans.
Oui, non, mais bien sûr. Mais parce que souvent, on me dit, il y a ce film-là qui a été fait sur le handicap.
Parce que vous en parlez souvent aussi de ce film.
Tout à fait. Parce que je trouve que c'est un film marquant. Mmh. Mais je trouve qu'un film de toutes les 28 ans sur.
Ça dit quelque chose.
Avec, voilà, il n'y en a peut-être pas assez. Ouais. Et après, en parallèle, il y a le personnage de Sylvain qui est né sur scène, qui est libanais d'ailleurs, qui est né à Beyrouth. Un soir, bourré, voilà. Il est vraiment né dans un taxi au Liban.
Pour faire rire des potes, donc, en se disant, ce sont des vannes que je vais faire sur les handicapés mentaux, et c'est pas possible de le faire sur scène parce que cet humour-là ne passera pas. Ça reste entre potes.
Oui, déjà, c'est de toute façon toujours un perso quand tu le démarres, et il est fait pour naître en soirée, et puis après, tu l'imagines
c'est
sur
fragile,
scène.
Ouais.
Mais en fait, lui, il fait pas de vannes. Moi, quand je fais Sylvain, je fais pas de vannes sur le handicap, c'est le personnage qui a,
oui,
qui a un petit truc
faites,
en plus.
Mais vous faites rire sur ce petit truc en plus. Et
oui.
C'est ça qui est réussi dans le film, c'est que vous riez avec des handicapés, vous riez et vous faites rire sur le handicap sans jamais que ce soit une insulte ou humiliant pour eux.
Non, mais parce qu'en fait, on casse le tabou, justement. Y a pas de... C'est nous qui mettons des barrières, comme quoi on n'a pas le droit de faire de vannes, comme quoi il ne faut pas aller sur ces sujets-là, comme quoi. Mais en fait, eux, ils sont. Et si vous leur posez la question, ils vont vous dire je suis handicapé, je suis trisomique.
Il y a cette maman qui vous avait appelé quand vous vouliez inviter un enfant qui était trisomique.
Qui était 21. Autiste, qui était porteur.
Autiste, pardon. Et qui vous avait appelé en disant mais est-ce que tu l'invites à ton anniversaire pour te moquer de lui ou pourquoi
ouais,
tu l'invites ? Donc la question se pose, même quand on cherche à être gentil, de savoir pourquoi vous l'invitez.
Ouais, mais parce que justement, comme ils ont toujours eu ce truc-là de soit on se fout de leur gueule, soit on n'y va pas, en fait. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui va simplement en disant, ben non, parce qu'en fait je l'aime bien, il parlait de locomotive, je me souviens, il s'appelait Victor, il était passionné de locomotive. Et à un moment même, je lui disais, ça me gonfle, je m'en branle de tes locomotives, viens, on va faire une balle aux prisonniers, en fait. Et ça faisait du bien parce que là, je lui parlais normalement. La majorité des gens, et c'est pas méchant, mais c'est plus de la maladresse, c'est qu'ils savent pas comment aller vers eux. Donc ils y vont pas, et donc on exclut. Alors qu'en fait, il n'y a pas de technique.
Comme voilà. Ce pote qui était, alors lui, trisomique 21, qui jouait au foot et qui exprimait sa joie d'une manière totalement dingue, sans filtre, vous disiez, quand vous étiez gamin.
Oui,
aussi. Ça aussi, ça vous a marqué.
Ça m'a marqué, ce côté. Ils n'ont pas les barrières et les codes sociaux qu'on s'est mis nous.
Ouais.
Ils te disent, t'es beau, comme ils te disent, il est moche ton pull. Et ça fait du bien, en fait. Nous, on est là, on fait croire que tout le temps qu'on est sur la même humeur, qu'on est toujours de bonne humeur, que tout va bien. Non, on a le droit de dire qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie d'être là, qu'on s'aime. Voilà. Et eux, je trouve qu'il y a ce côté sans fil de « je te fais un câlin » et c'est cool. Voilà.
Alors, vous êtes Alice Blaïdi dans ce film, monitrice, vous tenez à bout de bras même, une sorte de colonie de vacances, enfin du moins...
Éducatrice,
c'est, ouais. Voilà, c'est une école, je sais pas comment on peut appeler ça,
ouais,
un centre.
C'est un centre,
c'est un centre,
ouais.
Voilà. Mais vous partez pour les vacances.
C'est ça.
Et c'est ce qui donne un côté solaire à ce film, où la lumière est totalement dingue. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes autant bronzé, puisque c'est sur le tournage du film, évidemment. Et vous vous retrouvez à partir, et on le voit dans la bande-annonce, à grimper dans le bus, et c'est les vacances, et tout le monde crie la joie de partir en vacances. Vous êtes trois monitrices et moniteurs,
ouais.
Et puis vous attendez un retardataire. Et il se trouve qu'il y a eu un casse juste à côté de ce centre, le casse du siècle, organisé par le père et le fils, c'est-à-dire Clovis et Artus. Et vous vous méprenez, ça part d'un quiproquo, en pensant que c'est l'handicapé qui manque.
C'est le nouveau qu'on connaît pas, ouais. Sylvain, ouais. Donc Artus va monter dans le bus à la place de Sylvain et il va se faire passer pour un handicapé. Il va être assez vite découvert.
Et on suit autres. Surtout, on suit la vie de cette personne qui devait monter dans le bus,
ouais.
Qui a une vie parallèle au film.
Il a sa best life,
ah, lui, ever. C'était son meilleur tournage. Lui, il a passé son tournage à mettre sa tête dans des nichons. Et
lui, il était très heureux. Lui, il prend un autre bus et il est embarqué par des des
ouais,
étudiants
dans un genre de spring break.
Exactement, spring break à Ibiza. On voit le truc où il n'y a que des filles en maillot et que de la vodka.
C'était la crainte de la maman d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit j'ai lu le scénario là, mais parce que sa maman est catholique et très croyante. Voilà. Et donc là, quand elle disait mais là, c'est-à-dire là, la tête dans les seins, il prend le shot et tout, je dis bah il va mettre sa tête dans des seins et prendre le shot.
Wow.
D'accord. Okay. Et donc elle lui demandait mais t'as envie? Ah bah oui, j'ai envie. Ouais. Bon bah très bien, mais il le fait alors s'il a envie.
Premier long métrage d'Artus, on va en parler évidemment avec Alice Baïdi et Artus jusqu'à midi et demi, mais d'abord voici Mélodie. Vous n'auriez pas fait le film comme ça, vous?
Oh là là, c'est vrai que je remplace encore Lisa Delmoitié. Oui. Encore une fois. Alors, pour nos invités qui ne sont pas au courant, Lisa Delmoitié a une chronique ici qui s'intitule « J'aurais pas fait ça comme ça ». Vous voyez le délire ou pas? Elle arrive et elle sort droit dans les yeux des invités « J'aurais pas fait ça comme ça ». Vous voyez la tannée tous les matins pour cette personne? Remplacer Lisa, c'est donc claquer son meilleur « J'aurais pas fait ça comme ça » devant le mec qui a écrit et réalisé le film. Et devant la fille qui l'interprète. Et devant le mec le plus positif de France après Paul Pogba, Nagui.
Ah bon?
Et puis, en plus, aujourd'hui, voilà le sujet. Hein. Un film sur les handicapés mentaux. Un film qui mêle inclusion, braquage et comédie romantique. Ouais. Un film qui essaie de faire bouger les mentalités. Littéralement, pour le coup. J'aurais pas pu tomber sur un truc facile. Moi, je sais pas, Jean-François Piège qui vient nous parler de sa digestion aléatoire. Ou Anne-Valérie Pernoul pour son nouveau roman Être une moule zébrée en 2024 aux éditions de la Dope pour ma table basse. Non. Il a fallu que ce soit, et là je cite Lisa Delmoitié, sur les gogoles. Et en plus, c'est pas moi, hein. Il a fallu que le film soit super, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Alors comment sortir des vannes là-dessus, hein? Comment rire des... Enfin, et voilà quoi, super, merci Lisa, hein. Pas folle la collabo, elle avait senti le coup venir. Hein. Bon, souvent dans ces cas-là, quand je suis gênée, je fais plein d'analogies à base de légumes, mais là c'est même pas possible. J'ai jamais compris les gens en plus, sérieusement, qui se moquaient des handicapés mentaux, des blagues sur les nanas ou les mecs qui ont une déficience intellectuelle, on en fait sans cesse, mais les cons qu'ils font de manière sévère, ça m'a toujours déconcerté. Parce qu'un handicap, c'est un état de fait, et c'est donc étonnant de railler une situation immuable. C'est comme se moquer des filles qui sont nées avec des énormes seins, ou se moquer des gens qui sont nés avec des petits pénis. Enfin, un petit pénis, pas des petits pénis. Parce que dans ce cas-là, ce serait quand même assez normal de rire des gens nés avec trois petits pénis.
Ah, c'est vrai.
D'ailleurs, ça pourrait faire une suite à un petit truc en plus, on pourrait appeler ça des petits trucs en plus. Non, je m'égare. Bon. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile, comme on le sait, de se moquer des handicapés, mais moins des imbéciles bien intégrés. Ceux qui ont un cerveau dit classique, mais avec une mentalité à chier. Il y a moins de prises évidentes. Prenons au hasard Jordan Bardella. Au hasard. Ouais. Bon, il a des beaux chicots et il va au coiffeur chez Saint Attal, que le coiffeur des Miss. Du coup, même si de sa bouche ne bave que des âneries, la raillerie semble moins évidente. Enfin, c'est ce que nous indique la télévision française qui ne lui oppose aucune résistance. À croire que la moquerie pure ne peut se faire que si les faiblesses se voient. C'est beau, ça.
Ouais, c'est joli.
Ouais. Ça, c'est pas du Lisa Delmoitié. ce que je veux dire, c'est que non, j'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais sans doute fait le film de manière artificielle et condescendante, alors que vous, Artus, et par conséquent, vous, Alice, vous l'avez fait avec hardiesse et sagacité.
Merci. Oh là là.
Merci beaucoup. Merci.
Mardi prochain, c'est le dernier mardi au point virgule où on te retrouve, et puis cet été.
Enfin, non, il y en aura d'autres des mardis au point virgule, mais sans elle, tu veux dire.
Oui, le point virgule ferme.
Non,
et cet été, c'est le Festival d'Avignon, dis donc.
Oui, dis donc.
Oui.
Tout l'été.
Oh, superbe. Mmh. Tout juillet.
Ouais.
C'est ça commence quand, le Festival d'Avignon?
Le 2.
Le 2 jusqu'au 25.
Jusqu'au 24 cette année.
24, d'accord. Mmh. Très bien. Revenons donc à ce film, Artus. Alors pour l'anecdote, vous signez le début. Enfin, votre nom officiel apparaît au générique.
Même pas en fait. Début. Parce qu'il y a Artus Solaro au générique.
Ouais, mais il n'y a pas Victor.
Ouais, il n'y a pas Victor. Mais, okay. Mais c'était juste. Et vraiment, c'est juste parce que comme on a entremêlé les noms des autres comédiens, s'il n'y avait que Artus, je ne pouvais mettre qu'un nom. Donc j'ai mis Artus Solaro juste pour pouvoir mettre.
Moi je pensais que c'était une manière de dire à partir de maintenant, quand je réalise. Je vais mettre...
Non, c'était vraiment une question de pratique. Ouais. Parce qu'il y a même d'autres films où je suis marqué. Là, par exemple, il y a un film dans lequel je suis, qui est à Cannes. Et là, je suis Victor Artus Solaro. Parce que là, pour le coup, pour les films un peu plus chic, tu vois, je passe en Victor Artus Solaro. Ouais. Quand on est à Cannes, c'est Victor Artus Solaro.
Ok, très bien. Le petit truc en plus, est-ce que vous voulez faire passer aussi, parce que on peut pas faire un film comme ça sans vouloir porter quelque chose, sans vouloir porter un message. Vous êtes aussi ambassadeur quand même des Jeux Paralympiques, donc vous êtes touché par cette cause du handicap et le regard qu'on porte sur eux.
Oui, mais parce qu'en fait, je trouve que on en parle pas souvent, pas assez. C'est 10% de la population, les gens en situation situation de handicap, peu importe le handicap.
Et sans compter le nombre d'accompagnants et de personnes qui sont
sans compter, voilà. Et après, tout ce qui est handicap mental, en plus, malheureusement, c'est compliqué pour eux d'en parler. Y a pas, on n'a pas vu des manifs avec 400 000 trisomiques dans la rue. Et du coup, on n'en parle pas, en fait. Et voilà, et je trouve que c'est important de mettre un œil sur eux.
D'autant plus que dans le film, ce qui est intéressant, c'est que la normalité, entre guillemets, le handicap, il n'est pas du côté de là où on croit, en fait. C'est ça qui est intéressant.
Qui sont les saints d'esprit.
C'est ça, absolument.
Et ils sont de tous les plans, surtout. Et comment jouer, donc, avec des acteurs qui sont sans filtre, qui, peut-être, ne respectent pas forcément les répliques, ni le...
Oh, non.
Les quoi ? Les répliques.
Excuse-moi, je ne comprends pas de quoi tu parles.
Donc, Alice, comment ça s'est passé ?
Franchement, honnêtement, c'est très, très honnête ce que je vais dire, mais moi, c'est l'expérience de ma vie en tant que
actrice. Vous l'avez écrit pendant le tournage sur Instagram, vous avez dit c'est le plus beau tournage de ma vie.
Ah ouais, et puis pour nous tous, je pense tout technicien, tout le monde confondu, on a vécu un truc extraordinaire. C'est vraiment une expérience d'actrice que j'ai vécue avec eux, parce que moi, je me croyais un peu fragile au niveau du fou rire, parce que je suis en général sur les plateaux.
Vous êtes bonne cliente, comme on dit.
Je suis bonne cliente, j'ai le fou rire facile. Et j'avais dit à Artus, je suis peut-être pas le meilleur soldat pour ça. Et en fait, ils m'ont appris une autre forme de concentration, parce que fallait pas gâcher ces scènes. Quand ils proposaient un truc, fallait être là, fallait pouvoir leur répondre et être solide.
Il pouvait n'y avoir qu'une prise par moment, parce que la phrase était au bon moment dans le bon tempo, et il fallait pas la gâcher.
Il y avait une fulgurance, fallait qu'on soit là, fallait que nous on tienne. Puis moi, j'étais un peu une aide pour Artus, qui pouvait pas non plus tout faire. Donc parfois, j'étais sur le plateau comme ça, à tenir les uns les autres, les placer et tout. Et du coup, je me suis oubliée moi aussi un peu. Et j'étais moins sur moi, j'étais moins sur mon perso, moi, mon texte, mon truc, tout ça.
Ça se ressent pas, et surtout vous êtes l'éducatrice, c'est-à-dire que vous tenez un peu la boutique.
Ça a été ok pour tout le monde dès le départ. On a aussi gardé nos prénoms, donc à un moment donné on savait plus trop, est-ce que j'étais vraiment leur éduc, est-ce que j'étais leur partenaire actrice. On se perdait un peu là-dedans, mais ça nous allait, quoi. On était perdus dans le Vercors, dans ce gîte. On était aussi nous en colo tous ensemble, et c'était magique. Et je crois que le film il a un petit goût de ça, quoi.
Ah, il a le suspense aussi, de l'intrigue. Pardon, il faut pas l'oublier, cette intrigue de départ. Les personnages de Clovis Artus braquent une bijouterie. On sent dès le début que c'est un peu quand même des bras cassés, parce qu'il y en a un qui est très, très sévère, très méchant, qui est interprété par Clovis, le père, et qui ont des masques de lapin ou d'animaux.
Moi, j'ai le lapin, et lui, il a le renard, évidemment.
C'est évidemment le fouté. Et vous prenez un couple en otage, en train de braquer une bijouterie, et vous lui offrez la bague de fiançailles tellement.
Parce que je suis pas un méchant. Non, mais en fait, c'est marrant parce qu'au montage, j'ai enlevé plein de choses justement sur la relation qu'on a avec Clovis, parce que je pense qu'en fait, elle est claire. Il y a pas besoin de l'expliquer. C'est un père et un fils. Je pense que Clovis m'a eu jeune. Moi, c'est ce que je me raconte. C'est un mec qui a eu un gosse tôt, qui s'est retrouvé un peu à faire des petits larcins, et voilà. Et du coup, il mène cette vie depuis toujours. Mais tu sens que c'est pas des méchants. Et moi, mon perso, encore moins. Donc, il va tuer personne, il va blesser
personne.
C'est
plutôt quoi, de la démerde alors ? Parce que c'est quand même un braquage avec des guns. On est pas dans le...
Oui, mais est-ce que c'est des vrais guns ? On sait pas, non, ça peut être des faux pistolets, ils ont des masques. Non, mais pour moi, c'est des gentils. Il y a des braqueurs gentils.
Je sais pas, non, je vous laisse vous débrouiller tout seul. Je ne t'aiderai pas.
Il y en a des gentils, il y en a qui ont l'air sympas.
Oui, et il y a Gaëtan Roussel. Et puis, la solution, donc, l'échappatoire, après avoir, là aussi, autre message, après avoir garé leur voiture sur une place handicapée qui est partie en fourrière, ça aussi, c'est...
Ah bah, vous avez jamais vu Artus voir un mec se garer sur une place handicapé, alors qu'il l'est pas.
C'est un peu ma lutte. Ah mais je peux le rendre.
Excusez-moi, monsieur. Vous n'êtes pas handicapé. J'ai pas l'impression que vous êtes handicapé, en fait. Et là, on est au McDo. Viens, on va prendre notre truc buffet.
Et justement, votre personnage est très proche de vous, justement, avec ce côté sans filtre. Vous l'êtes aussi dans le film. C'est-à-dire, dès l'instant où il y a l'un des adultes handicapés mentaux qui vous dit « Toi, t'es pas malade », et on le voit dans la bande-annonce, la scène est sous la douche, immédiatement, vous dites « Bah ouais ». C'est-à-dire qu'ils cherchent même pas à mentir.
J'essaye deux secondes, minutes, quoi. En fait, ils sont tellement grillés. Mais c'est ce que je voulais dans le film, c'est que je voulais pas qu'on se moque d'eux et que voilà. Et donc là, le fait qu'ils nous grillent très vite, en fait, très vite, ça devient des alliés. Et en fait, c'est eux qui font.
Votre allié, pas celui de Clovis, parce que.
Non, Clovis, mais même Clovis, il pourrait le balancer, parce que si moi je suis pas. Mais en fait, ils sont pas là-dedans. Ils ont des nouveaux potes, ils ont envie de se faire des potes. Et voilà, et cette relation, elle est plus saine comme ça. Le fait qu'ils nous grillent vite, je pense que ça. ça rend le truc plus sain.
Et puis le personnage de Clovis, il va aussi développer des liens avec l'un des pensionnaires. Donc en fait, il n'est pas non plus complètement extérieur à l'histoire, quoi.
Et là, on est proche de la vérité aussi, parce que le football, c'est une porte d'entrée dans la vie de Clovis assez facile. On parle foot, on est son ami.
Ouais, tout à fait. Enfin, sauf quand on parle du dernier match, là.
On n'est pas obligé de parler de Lyon, on peut parler du foot en général.
Oui, voilà.
Ce film a été difficile à tourner, justement, avec cette manière de travailler, sans savoir si le texte sera dit au bon moment, au bon rythme. Est-ce que j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, que certains avaient des oreillettes, que d'autres avaient besoin d'entendre les répliques avant de les faire?
Oui, en fait, c'est surtout sur les scènes, moi, les scènes de joie, les scènes de repas, les scènes tout ça. En fait, je suis pas attaché au texte. Si je leur dis, voilà, là, c'est le repas d'anniversaire, on est dans la bonne humeur, c'est l'anniversaire de Marie. Donc après, on laisse vivre le truc. Moi, j'aime bien, quand j'avais vraiment besoin d'aller chercher des textes et des phrases et tout, il y avait des techniques différentes pour chacun. Ludovic, qui est celui qui est chauve, qui dit des insultes, lui, on a découvert que dès qu'on lui mettait l'oreillette, il y avait vraiment un truc de focus et de concentration. Et on le voit écouter l'oreillette, mais sur lui, ça, on s'en fout, ça passe.
Après, Ludovic, il pensait qu'on entendait tout ce qu'il y avait dans l'oreillette. Oui. Donc, il parlait à l'oreillette. Alice, tu m'entends? Mais non, Ludo, parce que je suis au loin dans ma loge. Donc, c'était assez rigolo.
Et Arnaud, c'était plus
sans balancer le nom, il y a des animatrices et des animateurs qui répondent à leur oreillette aussi. Hein,
Il y a d'autres acteurs qui ne sont pas handicapés qui répondent à leur oreillette aussi. Voilà.
Donc c'est un réflexe bien naturel. Et pardon, il y en avait un qui perroquet, vous dites.
Non, Arnaud, c'était plus en perroquet. C'est le fan de Dalida. Lui, c'était plus. Ouais. Des fois, quand il stresse un peu, il a la pâteuse, il a un peu plus de mal à parler. Donc on a pris le temps, on est allé chercher les phrases tranquillement.
Mais c'était pas dur. Il y a aucun moment.
Non, c'était pas compliqué.
On a subi le truc. Au contraire, voilà, c'était parfois un peu laborieux sur des trucs et tout, mais
c'était tellement naturel. Je me demande si vous n'avez pas tourné en permanence.
Mais en fait, c'était ce que j'avais demandé.
Sans qu'il y ait moteur, sans qu'il y ait coupé. Quoi.
J'avais demandé à ce que les caméras soient toujours un peu là et qu'on puisse aller choper des choses. Il y a plein de choses qu'on est allé un peu voler aussi, entre guillemets, notamment le moment où Marie parle. Ouais. Elle s'ouvre et qu'elle dit qu'elle a été abandonnée, qu'elle machin. Ça, c'était pas prévu, en fait. Mais on était sur le coup et on l'a chopé. Mais il y a pas mal de moments comme ça.
Il y a des moments drôles, j'imagine, qui sont. Arnaud.
Et il y a quelques moments drôles dans le film.
Non, mais justement, qui sont complètement improvisés. Arnaud, quand Marie s'approche de lui, qui dit je peux pas, qui se lève, qui monte l'escalier.
Non, ça, c'est du jeu. Après, le fait qu'il tende la jambe. Non, ça, c'est lui. C'est lui, on sait pas pourquoi.
Il pleurait de rire.
Et au début, il était pas dans le montage. Je me suis dit, mais si, parce qu'en fait, c'est tellement lui. Ça veut rien dire, mais c'est tellement lui.
La scène de la pâte à sel, moi, pour le coup, je pense que c'est un des plus gros fours de ma vie. Hein. Quand je me suis rendu compte que tout le monde bouffait de la pâte à sel et qu'en fait, il fallait gérer des trucs et tout. On a ri.
Le ton de la voix très maternelle, sur c'est de la pâte à sel.
Je descends deux octaves pour pas péter. Parce que je vois Clovis qui ferme les yeux, je voyais deux larmes couler comme ça. Et je voyais que son ventre bouger pour.
Elle a dit, faut pas, on mange pas la pâte à sel. Et là, il y a Ludo qui vraiment. Qui dit, c'était pas prévu, j'en ai pas mangé, moi. Et qui vraiment, ça veut tout dire. Ça veut dire, je viens d'en bouffer 7 kilos, tu vois. Et vraiment, il nous l'a dit, mais avec une sincérité. Mais après, il y a des moments. Tu vois, tu parlais de ce truc qu'on a chopé. Marie, qui est le personnage qui se prend des trucs dans la tête.
Quoi qu'il arrive, mais dans le foot, quel que soit le jeu, elle prend.
Oui, mais tu vois, le ballon.
L'objet dans le visage.
Le ballon, il est. On tourne une partie de foot. Je dis, je veux des moments de vide, du foot. Je le mettrai où je sais pas. Et là, il y a Gad qui prend la balle, qui met un énorme shoot. Ça part sur qui? Sur Marie, en plein dans la gueule. Et là, vraiment, j'ai eu ce truc de réal. Tu vois, c'est super. Voilà. Mais elle a peut-être mal. On s'en fout. Tourne. Oh. Et après, on est allé checker. Elle avait rien. Voilà. Mais vraiment, celui-là, il était en plus. C'est
la plus belle des étoiles parmi les
yeux. Yann sur France Inter. On aura tout vu. Ça y est.
Clic, pom, pom.
Sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour.
Ah, je la connais par cœur.
Je sais que le passé, c'est le passé. Mais entre nous, je peux pas dire ce qui s'est passé.
On l'entend beaucoup, Yann, c'est le cliquipompon dans le film. On a aussi beaucoup d'Alida.
Il y avait une belle fille.
Évidemment.
Qui avait peur d'aller prendre son bain.
Et non seulement on l'entend chanter, mais on l'entend parler. Et on entend Dalida citer du Saint-Exupéry.
Au début. Ouais.
C'est formidable.
Les Saint-Exupéry, plus précisément.
C'est vrai.
Oui, parce que je cherchais un truc pour démarrer le film.
On ne voit bien qu'avec le cœur.
Ouais, et je suis tombé sur cette interview d'elle et je trouvais que la phrase était jolie et qu'elle lançait bien le film.
I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora.
C'est C'est un film où on rit énormément. C'est un film qui fait du bien, d'abord, parce que il y a des images qui sont belles. Là, je salue aussi la réalisation, parce qu'il y a un super boulot. Il y a un truc que vous aimez, ce sont les travelling arrière impressionnants, que ce soit dans le car ou dans la nature, c'est-à-dire partir du fond du car et faire ce travelling
entre
arrière,
les sièges. Entre les plus, sièges, c'est j'aime bien les challenges.
Techniquement très impressionnant, ou partir de l'écorce d'un arbre pour finir sur la planète Terre carrément. C'est extrêmement impressionnant et bien réalisé.
Merci.
De ce côté-là, bien joué aussi. La lumière est formidable. C'est Jean-Marie.
C'est Jean-Marie Drejoux. J'ai eu la chance qui est le chef opérateur de Jean-Jacques Hanot. Et
c'est un film lumineux, c'est-à-dire vous vouliez qu'il soit chaud, quoi.
Ah mais je voulais de la chaleur, je voulais du soleil, je voulais de la couleur, parce que j'ai l'impression que pareil, tous les films qui traitent de ces sujets-là sont toujours dans le nord, sont toujours, il faut rajouter un côté.
Il y a un côté, c'est vrai.
Je suis désolé,
il y a du soleil dans le nord.
Non, il y a pas de soleil dans le nord. À un moment, on va se dire les choses. Non, mais j'ai l'impression qu'il faut toujours rajouter un truc. Dès que c'est un sujet triste, il faut rajouter un truc de tristesse et de. Et là, j'avais pas envie de ça. J'avais envie d'un film joyeux. J'avais envie de. L'inspiration, c'était vraiment voilà, nos jours heureux. J'avais envie de ce truc où on a envie d'être.
Ouais, la vraie colonie de vacances.
Ouais, à la fin, on a envie d'être avec eux.
Exactement. Et puis il y a des moments aussi où on a des frissons et des larmes. Murray Head.
Le dernier jour de tournage, on s'est retrouvé dans la voiture avec Jean-Marie et Artus. On rentrait à l'hôtel et il nous a mis cette chanson. Je pense qu'on devait avoir 40 minutes de route. On s'est pas dit un mot et on entendait juste. Et on était tous les trois à chialer comme des bébés. C'était assez joli, ça m'émeut encore moi quand j'y pense.
Ouais. Ouais, bon, la chanson est extrêmement belle, mais surtout elle est bien choisie.
Et puis on venait de vivre un truc incroyable. Cette chanson, elle nous a vachement porté. Ouais.
Et parce qu'en plus, à la fin, elle repart.
Elle monte. Ouais, c'est
moi,
ça.
C'est ça que j'aime bien. C'est que je voulais terminer quand même sur un truc.
Ce sera le 1er mai au cinéma, ça s'appelle Un petit truc en plus avec Artus, Alice Belaïdi, Clovis Cornillac, Marc Rizzo, Céline Broussard, Gad Abécassis, Ludovic Goul, Stanislas Carmon, Marie Collin, Thibaut Conan, Mayan Sara, Elbaz, Théophile Leroy, Boris Pitoef, Sofiane Rib, Arnaud Toupens et Benjamin Vandeval. C'est un film, encore une fois, je le redis, intelligent, doux et très émouvant. Et ce moment-là aussi est particulier dans cette chanson.
Oui, parce que celui-là, avant, il y a ce côté très mélancolique, des machins, et celui-là, c'est allez. Je trouve qu'il a un côté libère. Elle est parfaite cette chanson pour la fin. C'est vraiment.
C'est un film qui va vous faire du bien. Il sort le 1er mai au cinéma. Ce petit truc en plus signé Artus avec Alice Belaïdi et Clovis Cornillac entre autres. Et voici Tristan Lopin.
J'ai une bonne nouvelle.
Enfin.
J'ai appris un truc qui m'a rassuré pendant les vacances. Moi qui avais l'impression de faire beaucoup de mauvais choix dans ma vie de manière générale, j'ai trouvé quelqu'un qui en fait plus que moi. Alors non, je parle pas d'Amélie ou d'Acastera, pardon, d'Anne Hidalgo ou des goûts de Nagui en matière de chaussures. C'était gratos. Je parle d'Emmanuel Macron dans le top des décisions de merde. Ça commence à faire un petit moment qu'il squatte le sommet des charts, comme le disait Charlie et Lulu à l'époque du Hit Machine. Et visiblement, il n'a pas prévu de lâcher le haut du podium. Le 11 avril, avril dernier, notre président de la République a donc choisi de remettre à Thierry Ardisson la Légion d'honneur parce qu'il le considère comme un, je cite, déchiffreur de modernité avec des moments de liberté à jamais gravés. À jamais gravés, surtout dans l'esprit de Lara Fabian, les cheveux de Stéphie Selma ou encore les larmes de Christine Angot, pour ne citer qu'elle, qui se souviendront surtout du body shaming, de la misogynie ou du mépris subi par la romancière lorsqu'elle est venue sur son plateau présenter son livre « L'inceste ». On rajoute à ça que notre président, toujours à l'affût des bons plans, a également décidé de faire de Michel Sardou un grand officier de l'Ordre National du Mérite au mois de juin. Ce même Michel Sardou qu'on connaît depuis un certain temps, plus pour ses sorties d'oncle gênant alcoolo antiféministe que pour ses nouveaux morceaux. Faut dire qu'il nous a déjà tellement régalé avec certains des anciens « Le temps des colonies » ou « Être une femme » étant les chansons les plus écoutées de ma playlist Spotify wow. « Désir » de déconstruction. Mais alors, ce qui est le plus drôle, puisque malgré tout, Michel Sardou a quand même depuis de nombreuses années participé au rayonnement de la culture française à travers le monde, c'est la vraie raison qui a été donnée pour légitimer cette récompense. D'après le Nouvel Obs, l'entourage du président justifie ce choix parce que le chanteur a su diagnostiquer des décennies avant Michel Houellebecq le mal-être masculin dans ses textes.
Mais non.
Ce fameux mal-être masculin qui ronge notre société matriarcale depuis tant d'années. C'est donc peu de dire que notre président a vraiment le compas dans l'œil en ce moment, mais alors bien profond, et puisque je pense qu'il n'y a pas que ça à ce niveau-là. Hein. Là, je pense qu'on peut carrément y trouver le rapporteur qui va avec, une équerre, une règle et l'ensemble du contenu d'une trousse d'un gamin de 5e, hein. Tout en sachant que c'est le même président de la République qui, il y a quelques mois, dénonçait en direct à la télévision une chasse à l'homme à l'encontre de Gérard Depardieu, dont il considérait qu'il rendait fière la France. On fire le Manu, très très en forme. Le même président dont la grande cause du quinquennat, est, je le rappelle, les violences faites aux femmes. Niveau timing, on est donc tout bon. Après, pour être à même de traiter un sujet, on dit qu'il est préférable de se sentir directement concerné. Donc maintenant qu'il a bien craché à la gueule de toutes les femmes, il va enfin pouvoir se mettre au boulot. Mais attention, sans lui mettre trop la pression non plus. Hein. En juillet 2017, il avait annoncé que plus personne ne dormirait dehors d'ici la fin de l'année. Bon, 2024, il y a toujours des tentes partout sous les ponts, sur les quais ou le long du canal Saint-Martin. On peut plus faire un footing ou boire son latte matcha lait d'avoine sans avoir la misère du monde devant les yeux. Franchement, c'est un enfer. Non, vraiment, vivement que tous les SDF soient envoyés en région pour les Jeux Olympiques, parce que là, ça commence à faire mauvais genre. Et puis vivement que tous ces décisionnaires aillent se baigner dans la Seine avec un peu de chance et de courant. Ça nous laissera un peu de répit. Et puis eux, le temps de se réfléchir un peu les idées.
Merci.
Allez.
Et Tristan Lopin.
Alexis, aussi, dans quelques instants. Voilà. Tristan Lopin.
Qu'est-ce que c'est ?
Mais je fais un coming next.
Ouais, ok. Très bien. Tristan Lopin, ce soir, tu seras à la boule.
Exactement.
Mm-hmm. Oh, la classe. Vous êtes éclaté sur la BO du film.
En fait, j'ai mis plein de trucs qui me font.
C'est votre playlist Spotify, vous êtes
ici. Ouais. Ça, Bob Azam, pareil, c'est Beyrouth, l'été.
Il y a aussi. Il y a deux titres. Et du Dalida, vous l'avez compris, on va parler de la musique dans vos vies. Tous les deux, que ce soit Artus ou Alice Belaïdi, puisqu'on va écouter la bande originale de vos vies. Et puis tout à l'heure, nous recevrons Ludivine Munoz, puisque vous êtes donc, je l'ai dit, parrain des Jeux Olympiques, des Paralympiques, qui auront lieu à la fin de l'été. C'est du 28 au 8 septembre. On en parlera tout à l'heure, notamment. Elle est ancienne paranageuse et elle a 12 médailles paralympiques, 14 mondiales. Ouf. Ouais, genre.
Pas ouf.
Peut mieux faire. Hein.
Par rapport à vous, non,
ouais, c'est pas ouf.
Ouais, c'est ça.
12.
Mais d'abord, on va commencer en 2010. Alice Belaïdi, vous écoutiez. High Tech Save, quoi cette musique pour vous?
C'est j'ai fait plusieurs fois votre émission, c'est marrant d'essayer de repartir dans les années, taper des dates dans sa playlist parce qu'il y a des trucs qui reviennent.
Et bien non, forcément, mais il y a des images, on se revoit à un endroit en train d'écouter.
Talib Kweli, c'est ma porte ouverte au rap américain aussi quand je suis plus jeune, avec des mecs comme Mos Def, comme ça, qui m'ont vraiment. Ça m'a élevé de ouf, quoi.
Vous écoutez la musique pour danser? Vous écoutez la musique pour.
J'écoutais la musique pour tout.
Faire du sport?
Ouais, tout. Tout est prétexte à écouter de la musique.
Et 2010-2011, c'est une statuette en main sur la scène des Molières.
Ouais, c'est vrai, c'est pas mal, ouais.
Confidence à Allah.
Ouais.
Un Molière complètement inattendu, vous.
Ouais, petit syndrome de l'imposteur, et toujours, encore et toujours, mais ça fait un très bel objet de déco dans la bibliothèque.
et un objet de fierté pour les parents.
Ouais, les parents, ouais. Bien sûr. Ouais, ouais, non, c'est, le Molière, c'est un très bon souvenir, mais en même temps... Ouais, c'est pareil, c'est ça te dépasse ces trucs-là, parce que entre toi, la crédibilité que tu mets, et ouais, puis voilà, ouais. Et puis au final, ce que ça représente pour les autres, qui te donne un prix comme ça prestigieux, j'ai toujours eu vachement de recul vis-à-vis du,
ouais, mais
du
c'est
regard
classe, quand même, c'est
sur moi.
Bien.
C'est très classe, ouais. Mais bon.
Qu'est-ce que vous avez dit sur scène ce jour-là, vous souvenez?
Non, je sais pas, parce que j'étais en grosse crise de spasmo juste après. De toute façon, je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé ce jour-là. Ouais. Oh, je gère très bien mes angoisses. Moi.
En 2010-2011, Arthus, vous écoutiez. Mathieu Chédid et Vanessa Paradis, qui sont des amis de Gaëtan Roussel.
Ouais, mais j'aime bien.
La scène, c'est pour la BO du film ou c'est pour la natation olympique?
Non, c'est parce que c'est le début. C'est Avignon, justement. C'est mes premiers. C'est la découverte avec la scène, un peu forcée, mais parce que c'est mes parents qui m'ont pris une salle au Festival d'Avignon, qui m'ont dit t'as plus qu'à écrire un spectacle, vas-y, démerde-toi.
C'est fou
parce
quand
que,
même.
Parce que pour moi c'était un hobby, c'était pas un métier. Et donc ils m'ont poussé sur scène et ils ont fermé le rideau derrière moi.
Et vous avez tracté, vous avez fait les terrasses, vous avez fait.
Ouais, j'avais un petit tricycle. J'avais un petit tricycle avec un panneau en bois où j'avais collé mon affiche. Ça s'appelait Arthus va jouer sur l'autoroute, ça s'appelait. Où je parlais de mes années d'animateur avec les enfants. Et voilà. On essayait déjà de piquer un petit peu à l'époque.
Vous avez été animateur longtemps?
J'ai été animateur, trop longtemps. Trop longtemps de...
Pour les enfants, trop longtemps, ouais.
Non, pour moi, parce que
c'est fatigant.
C'est pas fatigant, mais c'est frustrant. Il y a un côté un peu, je trouve, par rapport au budget qu'on a, par rapport au truc. Mmh. En fait, on a envie de faire beaucoup pour les jeunes et tout, et on sent qu'il y a un truc un peu, il y a encore plus si on parle du handicap, encore plus.
Mais... On se sent quoi, démuni face à la lourdeur de l'administration, face à tout ce qu'il faudrait faire et qu'on n'arrive pas à faire.
Ben, c'est même pas ça, c'est pas juste par rapport au salaire qu'ils ont, quand on est même responsable de colo, machin et tout. En fait, c'est vraiment un métier qui est destiné qu'aux jeunes, mais il y a un moment, tu peux pas en faire ça toute ta vie, parce que t'es payé une misère, quoi.
Donc la société n'est pas reconnaissante pour
non,
les aidants.
Alors qu'on leur confie des gamins de tout âge, ils ont 30 gamins à 3, ils ont 18 ans, les gars. Ouais, et puis moi, j'avais 18 ans, j'ai même eu des gosses de 16 ans, 17 ans. Donc c'est quand même très particulier. T'es l'animateur et t'as. Et puis t'as des filles qui ont 2 ans de moins que toi, donc t'as...
Non.
Donc si,
non,
on n'a pas le droit. C'est un bon public aussi. Est-ce que c'est un public justement l'animation pour jouer, pour enfin dans l'interaction,
pour tester des vannes,
mais c'est développer une capacité à être toujours dans l'interaction, la répartie. Vous avez une répartie de ouf, vous, Arthus.
C'est gentil. J'essaye, mais en tout cas, j'espère être l'animateur un peu cool qui fait des vannes. Et voilà, j'étais pas celui de façon qui jouait de la guitare.
Les vannes, ce que j'allais dire. Van, c'était pour commencer quelque chose?
Bah oui, clairement, la guitare. La guitare et feu de camp. Ouais.
En 2016-2017, Alice Belaïdi, vous écoutiez Mac Miller.
Putain, mais t'as fait une belle playlist.
Ah ouais, elle est belle.
T'es allé chercher des trucs un peu
plus. Et c'est votre période Bureau des Légendes, à tous les deux d'ailleurs. Alice, vous acceptez de jouer dans cette série qui est devenue quand même une des séries références françaises sur le monde des espions et des renseignements français.
C'est là où vous êtes rencontrés tous les deux?
Non. Non, on s'était rencontrés sur Budapest. Ouais.
Sur Budapest.
Ouais.
Qu'est-ce qu'on vous propose de jouer dans le Bureau des Légendes?
Une fille de Daesh. Après, franchement, honnêtement, j'ai... quand même fait très attention, moi, depuis le début, à pas rentrer dans le rôle de l'arabe de service, parce qu'on a tendance quand même à mettre vite des étiquettes quand on est d'origine maghrébine. Et avec mon agent, on a fait gaffe quand même à vraiment se dire, ah, celui-là, on va pas y aller. Et là, c'était la première fois qu'on me proposait un rôle cliché entre grands guillemets, mais qui avait du sens, qui racontait quelque chose, qui n'était pas manichéen, c'était pas les gentils contre les méchants, on essayait d'aller plus loin dans la réflexion, et j'ai vachement aimé tourner ce personnage.
Comme quoi, quand il y a un peu de nuance et de profondeur, les choses passent, bien sûr.
Arthus. Alors moi c'était vraiment le rôle du gros de service pour le coup aussi, on était aussi sur du rôle très cliché, j'étais l'obèse de la DGSE. Ben non mais faut le dire, il y a un moment je suis désolé, ma première scène c'est quand même nous les gros on chie, si. En vrai, je suis très content d'avoir fait ce rôle, mais c'était quand même tous les gens qui ont été castés, c'était tous les gros de Paris. Si, si, donc pareil, moi je m'étais posé la question de me dire, ah cool, un rôle de gros. Puis au final, tu le fais parce que le rôle était chambé, mais oui, c'était quand même encore un rôle de gros.
Puisque vous parlez de votre physique, l'humour était aussi une forme de protection par rapport à ça, c'est-à-dire de s'auto-vanner, d'être en auto-dérision sur votre taille, votre poids, votre masse musculaire en ayant joué au rugby, enfin d'être dans l'auto-dérision permanente plutôt que d'essuyer des vannes.
Ben oui, déjà parce que voilà, comme dirait Cyrano, je me les sers moi-même avec assez de verve, mais ne permet pas qu'un autre me les serve. Mais en vrai, oui, je pense qu'il faut, même pour pouvoir vanner les autres, il faut que je fasse des vannes sur moi. Moi, j'ai envie de pouvoir faire des vannes sur tous les sujets, sur toutes les communautés, sur tout le monde. Donc, si je me vanne pas moi, il y a un côté un peu, bah, pourquoi tu vannes les autres et pas toi? Donc, ça me paraît normal, en fait.
Il faut aussi accepter les vannes des autres sur
bien
soi.
Bien sûr. Non, mais je les accepte. Il n'y a aucun problème. Et je me suis jamais vexé d'aucune vanne.
Oh bah, vous êtes resté 4 ans sans me parler, quand même. Hein vous écoutiez en 2016, 2017, vous écoutiez.
C'est drôle. Mais non, mais du coup, c'est parce que la BO du bureau, BO, elle est quand même folle. Cette musique, je trouve qu'elle est dingue.
Éric Rochon à la réalisation, quand même. Faut rappeler cette série qui est.
Et vous jouez un analyste de la DGSE. C'est vous qui avez sollicité la production pour ce rôle?
Ah bon?
Ouais.
Non.
Ah bon, c'est eux qui.
C'est vrai que vous avez voulu coucher avec tout le monde.
Ouais.
Ah non, j'ai sucé 2-3 personnes de l'équipe. Ah, ça, c'était vraiment par plaisir. Il y avait aucun.
Non,
c'était pas du tout professionnel. Non, c'était pas pro du tout. Non. Non, c'était par passion.
En même temps que vous faisiez danser avec les stars, en fait. C'était
oui, en fait, je faisais.
Même période.
Non, en fait, c'est ça, c'est que j'ai accepté. Ah oui. J'ai passé le casting, et vraiment, en plus, en me disant, c'est mort. Je sors de chez Ruquier, machin, ils vont jamais me prendre.
On demande qu'à en rire.
Voilà.
Parce que je sors de chez Ruquier, il y a plein de mecs qui peuvent le dire. Il y a les grosses têtes.
On te suit pas là du tout. On te suit pas du tout là.
C'était sale.
C'était pas bien.
Bref, je sors de l'émission.
Ok, donc il y a que certaines personnes qui vont faire des vannes.
Non, on a le droit.
Donc je sors de l'émission de Laurent Ruquier, on me demande qu'en vrai. Et je me dis, en plus, pour le coup, c'est moi qui, pour une fois, me mets une barrière en me disant, ça sert à rien, c'est une série Canal hyper hype, machin et tout, jamais de la vie, ils vont prendre un mec qui café, on me demande qu'en rien. Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que Rochon et Antoine Chevrolier, d'ailleurs, qui était le co-réalisateur avec qui je fais le film là, La Pampa, qui va à Cannes, voilà. Et c'est lui qui, en fait, il savait pas qui j'étais, il s'en foutait, et surtout, il voulait juste l'acteur qui correspondait au rôle. Sans se soucier de ce que j'allais faire.
Sans préjugé.
Ouais. Et du coup, c'était. Voilà. Et après, du coup, j'ai pris le bureau. J'ai accepté Danser avec les stars. Parce que je me suis dit, OK, Danser avec les stars, ça va me flinguer au niveau du cinéma. On va pas se mentir. Le bureau des légendes, ça va me remettre là-haut.
Mais pourquoi avoir fait?
Donc, je vais être à zéro. Pour l'oseille. Danser avec les stars, on va pas se mentir. Hein, c'était pour ça. Non, pour ça et pour la notoriété et pour ce que ça a amené. Et parce qu'il était dans une époque où.
Et c'est pour le faire avant Ines Reg, sinon c'était pas.
Voilà. Non, mais il y a un côté, t'as peur de disparaître en vrai. Quand tu démarres, tant que t'es pas.
Vous ne le referiez pas aujourd'hui.
Aujourd'hui,
non, vous n'avez pas besoin de ça.
Je referai le bureau des légendes, mais je ne referai pas Danser avec les stars. Mais en même temps, j'ai rencontré ma femme, donc je suis très heureux de l'avoir fait pour ça.
Puisqu'on parle du regard des autres, Ludivine Munoz vous a rejoint et on va en parler de ce regard des autres. Bonjour Ludivine.
12 médailles.
Ouais, 12 médailles seulement. C'est honteux.
C'est pas...
14 mondiales, une vingtaine de titres européens. Vous avez été amputé du bras et de la jambe droite à votre naissance. Lorsqu'on franchit les obstacles de la vie, mais au-delà, parce que je ne sais même pas comment on peut dire, ça ne s'appelle pas franchir les obstacles de la vie, faire ce que vous faites. C'est-à-dire, c'est un dépassement de soi et un dépassement même de nous tous autour de cette table. C'est-à-dire que vous nous mettez minables dans une cuisine, on est d'accord.
Alors bonjour à tous. Alors oui, quand on n'a pas d'humour, Du coup, la seule solution, c'est l'exploit sportif, qui était aussi, aussi pas mal. C'est une des solutions aussi. Oui, je pense que c'est comme ça, moi, que j'ai rencontré la natation. C'est-à-dire que j'ai découvert ce sport, j'aimais beaucoup l'eau. J'ai des super qualités de nageuse, faut quand même se le dire. Je flotte hyper bien. Et parti, voilà, ça aide quand même. Et parti de ce constat-là, j'ai rencontré Handisport, ma fédération.
Ouais.
Et heureusement pour moi, je suis arrivée juste après les Jeux paralympiques de Barcelone 92 et ils m'ont tous fait briller les yeux sur la vie extraordinaire qu'ils venaient de vivre. Et finalement, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et comment mettre toute cette colère et cette envie d'enfoncer les portes dans l'eau? Et c'est vrai que ça a bien marché.
C'est joli cette phrase, c'est-à-dire que la colère est un moteur.
La colère est un moteur.
Du dépassement, en disant non, je lâche rien, je vais y arriver.
Je vais faire autre chose que simplement dans ma galère où à chaque fois qu'on veut faire un sport, quand je suis arrivée en sixième, on me dit ben non, le sport c'est pas fait pour toi. Au moins parce que tout le monde court à l'échauffement et c'est un peu mon déficit. Je nage très vite, je marcherai pas autant que ce que je nage aujourd'hui. Mais voilà, donc ça c'est important et c'est comme ça que je me suis dit ben pourquoi pas essayer. Et quand on a pas mal de colère en soi à l'adolescence, hein, comme tout enfant, il y en a qui ont des complexes de leurs genoux, de leur taille, de leur poids. Moi c'était le handicap.
Tous les ados ont une colère. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'on en fait ?
Voilà, moi ça m'a été un moteur pendant des années et qui m'ont permis de dépasser la douleur ou au contraire dépasser la peur.
Mais d'où ça vient ce côté où on ne lâche rien ? D'où ça vient le fait de ne pas se dire à un moment donné je laisse tomber, je suis fatigué, ça me saoule ?
Ah bah l'envie de faire quelque chose, l'envie de se dire qu'on arrête de me regarder. Moi à cette période, ce qui était important pour moi, c'est qu'on se retourne pas dans la rue parce qu'il me manque un bras et que j'ai décidé de me mettre en short ou de porter des bretelles et une jolie petite robe, mais qu'on se retourne pas dans la rue en disant regarde maman, la demoiselle a pas de bras, elle a pas de jambes, mais plutôt oh regarde, c'est la championne paralympique que j'ai vue dans l'article la semaine dernière qui vient de remporter une énième médaille au jeu.
Donc là aussi, le regard des autres était un moteur.
Oui.
Détail charmant, celui de s'habiller. Tout le monde se pose la question du regard des autres quand on se fringue. La première chose que l'on fait quand on achète même un vêtement, c'est se regarder dans une glace, comment ça va. Cette question, on se la pose aussi sur comment s'habiller quand il nous manque un bras, une jambe.
Oui, mais alors on s'habitue à notre regard de nous-mêmes. Donc finalement, on se voit plutôt nous-mêmes et on ne voit pas par rapport aux autres. Donc on s'habille plutôt comme on se trouve jolie. Et après, aujourd'hui, c'est là que ça a énormément évolué et c'est les Jeux paralympiques qui en font partie. C'est comment on est capable de transformer justement la visibilité des belles prothèses aujourd'hui. Aujourd'hui, ils vont avoir une prothèse pour le sport, une prothèse pour se marier, une prothèse pour décorer, une prothèse pour faire du ski. Donc on voit vraiment que ça a changé. Et aujourd'hui, la prothèse est devenue un outil d'esthétique. Et Arnaud Assoumani, qui fait du saut en longueur et qu'on va retrouver aux Jeux paralympiques, il utilise sa prothèse du bras comme un élément d'esthétique.
C'est la première fois que Paris accueille les Jeux paralympiques. Les Jeux olympiques, oui, déjà, mais paralympiques, c'est la première fois.
Oui, et justement, c'est ça qui est très important, c'est de les faire connaître auprès de l'intégralité du public, parce qu'aujourd'hui, on ne cite pas trop de femmes championnes paralympiques demain, mais alors des athlètes paralympiques, c'est encore pire. On n'a pas tous les dates en tête. On a dit 28 août au 8 septembre, c'est important. Ouais. Cérémonie d'ouverture à l'extérieur. Et c'est important de transformer le regard de la société.
Pourquoi cérémonie d'ouverture à l'extérieur ?
Tu peux pas.
C'est quoi à l'extérieur ? Pardon. Non.
Alors l'idée, c'est Paris 2024, dès le début, a voulu traiter autant les Jeux Olympiques que les Jeux Paralympiques.
Ouais.
Cette idée un peu dingue de faire quelque chose de différent, de premier, on a mis la cérémonie olympique au bord de la Seine,
ouais.
Et la cérémonie paralympique, comme c'est pas que les joueurs de foot qui vont défiler au bas des champs, c'est les athlètes paralympiques et qui vont pouvoir, place de la Concorde, vivre un événement extraordinaire.
Avec ce drapeau, c'est Arthos, comment s'appelle
les Agitos.
Agitos, pardon. C'est Artus qui me trouble. Et pourquoi vous êtes retrouvé parrain d'ailleurs vous?
Il me proposait d'être relais de la flamme et puis je sais pas si on est vraiment parrain. Il y a, je sais pas ce que c'est que le terme, mais moi en tout cas je leur ai dit que je voulais plus m'engager du côté des paras que du côté des jeux parce que je trouve que les jeux ils sont assez mis en avant et voilà. Et ce que je voulais dire au moment où, lâchement coupé la parole. mais je voulais dire qu'en fait c'est que parce que souvent les gens pensent que les Jeux paralympiques c'est entre guillemets des sous-jeux, que les épreuves sont moins bien, que machin et tout. Il faut savoir que si on mélange en vrai les deux, au marathon, il n'y a aucun valide qui tiendra
capable,
le poids.
C'est ça,
au 100 mètres, ça se tient sans problème. Enfin, voilà, c'est vraiment pas des sous-épreuves et des sous-jeux. Il y a beaucoup d'épreuves.
549 épreuves, c'est impressionnant. 11 jours de compétition, 22 sports, 23 disciplines, 4400 athlètes. Qu'allez-vous faire ? Comment allez-vous vivre, Ludivine, ces JO ?
On a le défi de les faire connaître. On a une billetterie qui a été lancée en octobre 2023, lors de la journée paralympique avec Artus.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est super important de continuer à les faire connaître, parce que les gens n'ont encore pas mis dans leur calendrier l'événement paralympique. Mmh. On a encore des billets à vendre. C'est
d'accord.
Un défi. Voilà, d'aller. Donc entre maintenant jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, moi, mon activité, c'est de les faire connaître, de les faire de la promotion et puis de donner envie. Et surtout de ne pas se dire après, si j'avais su,
je serais venue.
Parce vous pouvez les acheter où ces places alors ?
Alors sur la billetterie, hein, Paris2024.org, ticketing, la même billetterie que les Jeux Olympiques, okay. C'est important. C'est des billets qui sont des 15 euros. Moi je sais pas, mais 15 euros pour passer une après-midi au Stade de France ou à Roland-Garros, bah, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas accessible au quotidien.
Non, non, puis c'est un spectacle et c'est extrêmement,
c'est un événement.
C'est extrêmement impressionnant.
Ouais. Impressionnant et puis on parle souvent des sports emblématiques. Mmh. Paranatation, franchement, parathlétisme, basket, fauteuil. Ouais. Là ils ont été qualifiés, ils ont gagné le tournoi qualificatif paralympique à Antibes. Les gars, ils sont fauteuils roulants et ils tirent à 3,05 m. Ouais, le shoot, il est incroyable à voir. C'est assez extraordinaire. Donc, il y a vraiment de l'émotion pour tout le monde avec la même envie de gagner et la même envie de ramener la médaille chez soi.
Alors, raconte bien, Ludivine. Respect, en tout cas, et admiration, Ludivine. Merci d'être venue à ce micro, Ludivine Munoz. Je le rappelle, responsable intégration paralympique au comité des JO Paris 2024. 12 médailles paralympiques, 14 mondiales. Elles sont où ? Il y a un mur chez vous de trophées ?
Alors, non, pas du tout. Elles sont surtout disponibles quand on va dans les écoles. On va voir les enfants à la semaine olympique et paralympique. Je les emmène parce que peu de gens touchent du doigt cette médaille. On les voit au musée olympique, mais on ne les voit pas au quotidien. Donc, ça, c'est important. Et le reste, elles sont au fond d'une boîte.
Oui, bah, il y a un moment, ouais, c'est ça. Ouais, ah, restez modeste.
Il a trop,
merci. Ouais, merci. Ouais. Tout de suite, voici les nouvelles du monde d'Alexis Rossignol.
Bonjour à tous.
Bonjour,
ça va bien, vous allez bien ?
Ouais, toi ?
Bah oui, ça va, c'est ça, les vedettes. Des gens qui vont toujours bien. Ou des gens trop uniques pour s'épancher en public. Enfin, parlons plutôt de moi. Hier matin, j'étais à l'Hôtel de France, qui est pile en face de la gare d'Angers. Parce que j'avais un train qui partait à 11h43 de la gare d'Angers, qui, elle, est pile en face de l'Hôtel de France. Ah oui. Angers, c'est la ville la plus agréable de France, et vraiment, je sais pourquoi. À 10h du match, je descends prendre mon petit-déj, j'arrive dans la salle, le personnel est en train d'enlever le petit-déj. Il y a un truc qu'il faudrait éclairer une bonne fois pour toutes. Est-ce que dans un hôtel, quand on te dit « le petit-déj est servi jusqu'à 10h », ça veut dire qu'à 10h, t'es encore le bienvenu ? Ou est-ce que ça veut dire qu'à 10h, tu peux te faire cuire un œuf, mais ailleurs, parce que les œufs sont plus là, en fait ?
Des vrais problèmes, quoi.
Ouais, voilà, ça, c'est des vrais problèmes. Parce que j'ai remarqué une constante. De 6h30 à 9h, t'es accueilli avec le sourire. Il y a du respect, c'est la France qui se lève tôt, qui dit à l'autre « salut camarade, toi et moi, on est ensemble, quoi ». À 9h30, tu deviens suspect. Et à un côté, on se disait qu'il n'était pas clair, celui-là. Il serait écolo, qu'on serait pas surpris. Et à 10h, c'est carrément le mépris. Dans les regards du personnel, tu peux dire « ah ben voilà, là le con du jour ouais, ». Il descend, tout sourire. Tu vas voir qu'il va nous barrer la 301 à midi 2 et qu'il va embarquer la clé. Et si tu descends à 10h01, hors la loi, au mieux, on te laisse prendre une banane, quoi. Combien de fois j'ai eu droit à la banane, alors que j'aime pas les bananes ? Je trouve que c'est un fruit trop sec. Techniquement, le jus de banane, je sais pas comment ça peut exister, quoi. Bon, hier, j'ai eu de la chance, le personnel était sympa. Il était 10h, mais ils m'ont dit « allez-y, installez-vous, on va patienter un peu ». J'entre dans la salle, et là, il y a des journaux, dont le New York Times.
Wow, chic.
J'ai rarement l'occasion de lire des journaux en anglais, moi. Donc je me dis « enjoy, Alex ». La dame me dit « thé ou café ?» Je dis « coffee, please ». Moi, quand je passe à l'anglais, j'active tout, quoi. Et là, elle me dit « vous êtes anglais ?» Ben, je dis « non, madame, si j'étais anglais, j'aurais demandé un thé ». Les gens ne réfléchissent plus, ça me rend fou. Bref, tout ça pour dire que j'ai lu le New York Times, où j'ai appris que 23 nageurs de l'équipe nationale chinoise de natation ont été contrôlés positifs, 7 mois avant les JO de Tokyo, qui ont eu lieu en 2021. Les Chinois, ils ont vraiment ce truc de la production en grande série, quoi. C'est au suivant, au suivant, au suivant. C'est du Jacques Brel appliqué au sport. Alors, malgré les contrôles positifs, ils ont participé aux JO de Tokyo. Et ils ont raflé 3 médailles d'or. Exploit inédit pour les Chinois. Et qui scandalise le monde du sport aujourd'hui, parce que l'affaire vient de sortir. Moi, je vois pas où est le scandale, en fait. 3 médailles d'or, 0 d'argent et 0 de bronze pour 23 athlètes dopés. C'est pas ouf, non ? En plus, c'est 3 médailles d'or, dont 2 par une même athlète. Ça veut dire qu'il y en a quand même 21 qui ont fait le déplacement, à qui on a filé un équipement. Bon, en natation, ça va, un slip, ça ruine pas un pays non plus. Et qui sont revenus sans rien, quoi. Tu dois avoir les boules quand t'es entraîneur. Regarde-moi, c'est branque, là. On les charge comme des mules et ils reviennent avec quoi ? 3 médailles. Mauvaise stratégie. D'autant qu'en natation, gagner, c'est bien. Mais il y a d'autres façons de marquer les esprits. La vidéo vraiment mythique de la natation mondiale, ça reste le nageur de la Guinée équatoriale.
C'est vrai.
À Sydney en 2000, ouais. Eric Moussambani. Celui qui était seul dans la piscine, qui nageait la tête hors de l'eau et qui a eu du mal à gagner, quoi. Ça, la pipe au miel et le candidat qui répond la mer noire à question pour un champion, et t'as un bêtisier qui tient la route à Noël. Alors pour en revenir au sujet et terminer cette chronique, parce que je suis fatigué. Finalement, le scandale, c'est surtout qu'ils ont été couverts par la fédération chinoise, qui a dit que le produit dopant venait de la nourriture servie dans l'hôtel où l'équipe séjournait, et qu'ils l'ont consommé à leur insu. Il vous arrive beaucoup de choses à votre insu, vous. Parce que si on peut trouver un défaut commun aux sportifs, c'est quand même qu'ils ont vachement la tête en l'air, quoi. Alors, plusieurs des athlètes testés positifs en 2021 seront restés à Paris cet été. Alors, pour qu'ils évitent de se doper accidentellement et malencontreusement, moi je leur recommande de prendre le petit-déj à 10h01. Parce que la banane, il semble que c'est pas dans la liste des produits dopants.
Merci Alexis.
Alexis, demain soir à Decazeville dans l'Aveyron et à partir de septembre à la Gaîté Montparnasse à Paris.
Tanguy Passureau nous a rejoint. Ouais. Tanguy, de quoi vas-tu parler dans la dernière demi-heure ?
Eh bien, de 4-5 cons. Alors, vous allez me dire, c'est large parce qu'il y en a des cons. Mais ces cons-là ont retiré des ours d'un arbre juste pour prendre des selfies avec eux. C'était aux États-Unis. Et la mère, on n'a pas voulu après, évidemment.
Waouh !
Eh oui.
Et
la plus belle des étoiles parmi Merci. Les autres, je vois que toi,
tu te sens seule, dis-moi, il reste une place auprès de moi. Le film s'appelle Un petit truc en plus. On vous encourage à le voir en famille, parce que il a des vertus d'éducation et de transmission aussi, et de valeurs pour les enfants. Au-delà de ça, en plus, vous avez passé un bon moment. C'est un spectacle. Ça reste du cinéma, du grand cinéma à voir, avec ses lumières, cette réalisation, ces travelling et ce jeu surtout de ces acteurs, où c'est encore plus remarquable de jouer juste Artus, Alice, Clovis, quand on a des acteurs sans filtre qui sont qui risquent toujours d'être encore plus justes, parce qu'ils ne cherchent pas à interpréter, ils sont comme ils sont.
Ah bah ils sont forcément plus justes que nous, puisque eux ils jouent pas. Mais d'ailleurs c'est ce que, parce que c'est pas des acteurs, je voulais pas des acteurs, je voulais des personnalités, je voulais vraiment que ça soit eux. Donc
dans leur propre costume, dans leur propre personne.
Ouais, c'est ouais. Tout ce que les gens vont voir dans le film, c'est réel, et c'était une façon déjà de les faire jouer eux sans jouer, et aussi de me protéger, parce que si on vient me dire, trouve pas qu'un gars qui met 50 déguisements dans un film c'est beaucoup, je dirais, ben, c'est ses déguisements à lui et il est comme ça, donc allez lui poser la question.
Vous avez vu, tout le monde a la tête qui bouge, hein,
c'est horrible.
C'est
qui fait ça.
Après, quand c'est bien écrit.
On est transporté.
À suivre jusqu'à midi et demi, donc nous parlons d'un petit truc en plus.
Attention, attention, voici une publicité pour Monsieur Meuble. Donc, si vous aimez des meubles inconfortables, mal faits, standards, eh ben n'écoutez pas. Eh oui, parce que chez